Vous avez remarqué qu'il y a entre les deux textes que nous avons lus ce matin une convergence sur le fait que certains s'en vont, d'autres restent, et que ceux qui restent nous disent à Jésus, nous t'avons connu, nous t'avons reconnu, nous sommes fidèles à ta parole. Mais il faut d'abord peut-être rappeler le contexte, surtout si vous n'étiez pas là dimanche dernier, dans lequel le passage de l'évangile de Jean se situe. Dans les versets juste précédents, notamment 57 à 59, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité la foule, entre guillemets, à le manger. Il s'agissait en fait de suivre Jésus sur le chemin de la croix, de communier à sa souffrance et à sa mort, de tout partager avec lui, le pire mais aussi le meilleur. Il s'agissait donc d'obéir à sa parole, à son exigence radicale d'humilité, « afin que par moi vous ayez la vie », dit-il, ça c'était le verset 57. « Afin que par moi vous ayez la vie ». Alors, les disciples avaient entendu cet appel, mais ils étaient choqués, blessés. Pourquoi ? Parce que ce commandement allait un peu à l'encontre de leur désir principal. Parce que cet appel contredisait finalement une aspiration première, qui se résume en une quête de bien-être peut-être immédiat, purement terrestre. Ils n'avaient faim que d'une seule chose, de gloire, de réussite ici-bas. Et pour cela, ils espéraient un Messie tout-puissant, qui leur offrirait le pain de ce monde sans restriction. La multiplication des pains était un peu mal interprétée. Or, sans aucune ambiguïté, la réponse est donnée. Si vous êtes incapable d'aimer le Christ dans sa faiblesse, de reconnaître en sa mort la manifestation suprême de l'amour divin, vous serez aussi incapable de le reconnaître dans sa gloire. C'est comme dans un mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Si vous ne comprenez pas que l'amour est un abaissement infini, vous ne pourrez jamais participer à son élévation et à sa victoire. La foi au ressuscité est avant tout un attachement absolu à Jésus de Nazareth, le crucifié. Un attachement qui est une communion à son corps, à un corps flagellé, à une vie crucifiée. Voilà le pain qu'il aurait proposé, et celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Alors c'est un peu logique qu'il trouve cette parole trop dure, sans intérêt, voire même scandaleuse ou révoltante, au-dessus de leur force, probablement. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole le semble dure parce que Jésus n'est pas un démagogue. Il leur dit carrément la vérité. Il leur dit ce qui doit leur être dit. Certains disciples vont ensuite le quitter. Et c'est toujours triste de voir des personnes nous quitter. Cela nous est sans doute arrivé dans notre vie d'avoir des amis qui s'éloignent à un moment donné, qui ne sont plus là, qui ne sont plus parmi nous. Nous sommes devant une situation où les disciples se font une idée de Jésus. Une conception bien à eux de la divinité de Jésus. Nous aussi, nous pouvons parfois réagir ainsi, nous dirons que nous voyons parfois les choses autrement. Nous aussi, nous pouvons être face à un doute profond sur ce qu'est Jésus, sur cette divinité de Jésus. Le doute, commençons par là, on se souvient de celui de Thomas. Il y a des choses qui semblent évidentes et qui sont parfois fausses. Puis il y a des choses qui n'apparaissent pas comme évidentes et qui pourtant sont vraies. Il y a le doute provisoire et il y a le doute permanent. Le doute provisoire, c'est par exemple celui de Descartes. C'est un doute méthodique, un doute que je dirais même nécessaire, celui que nous avons appelé le discours de la méthode. Le doute de la méthode, c'est comme le doute scientifique de manière générale. Celui d'un Claude Bernard, qui est fondé sur l'expérimentation nécessaire. Ce doute provisoire s'oppose à un doute plus permanent, celui qui décrète une fois pour toutes qui rejette toute remise en cause ultérieure, toute ouverture sur le possible qui n'est pas encore perçu comme probable. Le doute permanent est aussi celui de tous ceux qui choisissent de ne plus se poser de questions et qui veulent nous imposer leur vérité. Je vous invite à préférer le doute provisoire. Tout est possible, même Dieu, s'exprimait Ernest Renan à la fin de sa vie. Ce n'est pas un retour à la religion de son enfance qu'il a définitivement abandonnée à l'âge de 22 ans, ni la résignation du sceptique qui n'a jamais vraiment été, mais l'affirmation de sa part, de sa croyance, sinon d'une foi inconsciente. Pour lui, le monde a un sens et il faut travailler à sa perfection. Le doute dans notre vie courante est souvent explicable par la crainte d'un échec, ou parce qu'on n'arrive pas à se décider, qu'on veut peser le pour et le contre, qu'on prend un temps fou pour prendre une décision et on tarde à donner une réponse. S'il est nécessaire de se poser des questions, il est aussi nécessaire à un moment donné de fournir des éléments de réponse. Même si on peut être amené à remettre en cause des éléments de réponse, car c'est notre méthode en tant que protestant, c'est la liberté d'examen, une grande méthode qui nous est chère depuis la réforme. En fait, ce doute, cette méthode de doute doit avoir sa limite à un moment donné. Dans son étymologie, le mot doute d'ailleurs vient de la crainte puis de l'hésitation. On ne peut pas cependant passer notre vie à hésiter tout le temps. Si la parole de Jésus apparaît si dure aux disciples, c'est qu'elle est difficile à comprendre, qu'elle est difficile surtout à accepter. Ils n'ont pas eu le recul, ils n'ont pas eu, je dirais même, l'intelligence de la foi. Faut-il en avoir toujours des preuves? Il n'y a pas que les preuves dans la vie. Il y a aussi des arguments, des signes qui nous guident, des chemins qui s'ouvrent, qui nous indique une route pour comprendre ce que Jésus a voulu nous dire. Je vais vous donner un exemple d'argument que j'ai trouvé dans une situation du pasteur Georges Marshall, que j'ai connu un peu avant sa mort. Le monde s'explique mieux avec Dieu que sans Dieu. Des arguments, on pourrait en trouver bien d'autres, pour éviter le scepticisme qui nous gagne quand on ne se documente pas tout à fait assez. La foi est donc aussi peut-être une connaissance. D'après un exégète, Jean ferait 40 fois référence à la connaissance. Je vous avoue que je n'ai pas calculé. Mais plus on étudie, plus on se penche à l'intérieur des textes, plus on sonde les Écritures, plus cette connaissance finit par nous venir d'en haut, par un grand souffle qui nous vient. La foi n'est pas le résultat d'un effort personnel, c'est plutôt l'action de l'Esprit en nous-mêmes. Encore faut-il accueillir ce souffle de l'Esprit, et c'est justement ce à quoi nous sommes invités. Comme nous l'avons entendu dans la lecture du passage de Josué, en fait il s'agit de rester disponible à ce qui nous dépasse dans ce voyage permanent. Sur ce chemin de la vie où nous sommes des itinérants, des nomades, où nous pouvons trouver de temps en temps des signes, des arguments nouveaux au fond de nous-mêmes, à l'occasion de nos rencontres, des hasards de la vie, de ce que nous ne prévoyons jamais pour le lendemain, et saisir ce qui nous est révélé parfois même au-delà de la vie. Le doute peut alors faire place à la conscience, deuxième partie. Une conscience qui peut nous venir d'une confrontation aux autres, à ceux que nous rencontrons sur notre route, ou parfois aussi une conscience qui se révèle à nous comme une évidence devant la beauté du monde et de sa création, ce que nous appellerons parfois la révélation. La conscience, c'est cette voix de l'esprit, cette petite flamme qui brille dans notre cœur, ce sanctuaire intérieur. C'est l'esprit qui, comme l'a bien dit Luther, c'est l'esprit qui entraîne la foi. Et c'est la foi qui entraîne l'amour. Et c'est l'amour qui nous incite à entreprendre de bonnes œuvres, des œuvres qui soient bonnes. C'est l'esprit qui fait vivre. Jésus est clair dans notre récit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce propos au titre qu'avait donné mon propre grand-père à une petite revue qu'il avait fondée et qu'il avait justement intitulée « Esprit et vie ». Le doute est inévitable, car il n'y a pas de foi sans doute. Il est nécessaire de suspendre parfois son jugement, de se donner la liberté de conscience, la liberté de réviser son jugement. Mais il faut le faire toujours à titre provisoire. Il ne faut jamais le faire à titre définitif. À ce moment-là, nous savons que grâce à l'Esprit, une impulsion nouvelle nous est donnée. Elle nous vient d'en haut et nous verrons à ce moment-là toutes choses avec des yeux neufs, avec les yeux de la foi. C'est-à-dire non seulement avec plus de connaissances, mais aussi emplie d'une nouvelle conscience. Cette conscience qui permet une confiance pleine et entière en Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Conscience et confiance. Et pourtant, dans le verset 66, on nous dit que certains disciples s'en allèrent. Alors Jésus se tourne vers les douze en leur posant la question essentielle. Et vous, ne voulez-vous pas partir, vous aussi ? Verset 67. Il les provoque en quelque sorte. Vous êtes libres aujourd'hui et demain. Ma porte est laissée grande ouverte. Vous pouvez partir. Certes, j'ai besoin de vous. Je vous aime plus que tout. Mais si aujourd'hui ou demain, vous avez envie de me quitter, tant pis pour moi. Tant pis pour l'amitié. Tant pis pour le monde qui espérait en vous. Plus fondamentalement, Jésus pose la question de la foi. Que représente pour vous la foi en Christ? Est-ce une chose qui vous concerne de manière absolue ou est-ce un élément secondaire et marginal de votre existence? Et de la bouche de Pierre jaillit l'ultime confession chrétienne qui résonne à la fois comme une proclamation divine et une prière d'homme. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Le bon disciple découvrira en Jésus son unique planche de salut. Il s'accrochera non pas à sa présence physique, on le verra bien avec Pâques, mais à ses paroles de vie, proches, vivantes, puissantes. Croire à l'Évangile s'impose à son âme comme une question de vie ou de mort. La mort et la résurrection de Jésus constitue pour lui l'unique événement qui puisse fonder son existence et lui donner un sens. Parce que Jésus est le cordon ombilical qui l'unit au Père. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La manifestation ultime de son amour. En lui et en lui seul, il a la vie. En lui et en lui seul, il connaîtra la plénitude du bonheur. Si on hésite encore à se faire une opinion sur la divinité de Jésus-Christ, je vous propose une citation du pasteur Philippe Vasseau, qui était à l'oratoire du Louvre il y a à peu près 20 ans, au moins 20 ans maintenant. Il a dit que Jésus était là pour nous apporter trois choses. D'une part, le message de Dieu. D'autre part, la volonté de Dieu et l'amour de Dieu. C'est donc l'intermédiaire qui nous a apporté le message de Dieu, qui nous a fait connaître la volonté de Dieu et qui nous assure de l'amour de Dieu. Cela d'ailleurs ne nous surprendra pas que dans nos cultes, on ait toujours une partie sur la volonté de Dieu. Tout homme est appelé à faire le choix décisif et exclusif de la foi en Jésus-Christ. Tout homme est appelé à passer du doute à la conscience, choix décisif et exclusif, dans la mesure où le mouvement de son amour nous entraîne irrésistiblement au sacrifice de soi total. Décisif et exclusif, dans la mesure où Jésus-Christ est tout comme pour vous, comme vous êtes tout pour lui. Et vous, ne voulez-vous pas partir aussi ? Nous devons choisir entre rester avec lui et pour lui, ou partir on ne sait pour quelle destination ou quelle impasse. Mais la foi, rappelez-vous, n'est pas une décision aussi radicale soit-elle. C'est une marche, une longue marche parsemée d'embûches qui exige de l'endurance, de la persévérance, de la fidélité. Savoir accueillir les paroles qui bousculent et qui dérangent, oser placer ses certitudes les plus fondamentales devant le jugement de la parole divine, refuser l'autosatisfaction, le repli sur soi, oser risquer les rencontres, aller vers les autres. En deux mots, mourir et renaître à tout instant. Symbolique qui sera reprise maintes fois dans d'autres types d'approches. Telle est l'attitude, encore une fois, l'unique attitude qui maintiendra la foi vivante et la fera progresser. Et vous, ne voulez-vous pas partir, vous aussi ? Peut-être que vous en avez assez de ma prédication, que vous êtes pressé que ce soit fini. Au sein de cette Église, à chacun d'entre nous, comme à chaque disciple, Jésus lance son appel. Avec lui, on ne peut pas être à la fois Pierre et Judas, amis et ennemis. Vous êtes placé devant le choix ultime qui engage votre destinée, le suivre corps et âme pour vivre et partager son amour, ou le nier au nom de valeurs trop personnelles, de priorités matérielles, l'ignorer et l'exclure de sa vie. Obéir ou trahir, c'est devoir choisir entre exposer sa vie pour sauver autrui, au nom d'un amour qui vous a accueilli tel que vous êtes, ou fermer les yeux devant les malheurs qui sévissent dans le monde et renoncer à toute action. Les deux voies sont opposées, radicalement opposées. En nous posant à chacun la question aujourd'hui, Dieu espère au fond de lui-même la conversion, la réconciliation et la foi. Chers amis, nous nous apercevons chaque jour à quel point il est difficile de répondre à l'exigence de son amour, combien cela est difficile d'accepter ce message, et combien nous avons besoin du secours de notre Dieu pour nous permettre, en nous remettant debout de nos chutes quotidiennes inévitables, de mettre fin à nos doutes trop permanents. Lorsque le sous-marin atteint le fond de la mer, il y a toujours un moment où il remonte à la surface pour retrouver l'oxygène nécessaire. De même, au fond de notre condition humaine, au cœur de nos doutes, nous aussi, nous devons nous ouvrir à la conscience de sa présence. Et nous retrouverons alors les motivations pour remonter à la surface, reprendre courage, en ayant l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Peut-être dans votre vie avez-vous rencontré des personnes qui auraient eu la tentation de mettre fin à leur vie, de ne croire plus en rien, de vouloir se suicider. La meilleure réponse n'est-elle pas « Tu ne sais pas ce que sera demain. » Et demain peut être la solution. Demain peut offrir des chemins nouveaux. Dieu alors nous accompagne, il nous relève, il nous fortifie. Comment pourrions-nous partir alors que son amour demeure en nous ? Amen.